Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline qui fend en ce moment les vagues de la Méditerranée pour accoster non loin de Rome et s'immerger dans la vie et la carrière d'un réalisateur, poète et romancier italien hautement polémique et néanmoins très populaire de son vivant, si je puis dire, Pier Paolo Pasolini, assassiné le 2 novembre 1975. De façon sordide, à l'âge de 53 ans. Enragé, scandaleux, lumineux, trois adjectifs parmi tant d'autres pour décrire Pasolini qui, de par ses opinions tranchées, sera un acteur de premier plan de la vie politique et de la société italienne des années 50, 60 et 70, et pas seulement culturel donc. Il faut savoir aussi qu'au cours de son existence, eh bien, Pasolini sera traîné 33 fois en justice.
Pourquoi êtes-vous toujours sur le banc des accusés ?
Parce qu'avant 1968, j'étais pratiquement le seul bouc émissaire, et cela pendant 10 ans. Je luttais pour des raisons que les jeunes ont reprises plus tard. Les fascistes venaient me frapper. Les magistrats ont toujours condamné mes films. Tous mes films ont toujours été condamnés en première instance, quitte à être absous en appel. Pour la ricotte, j'ai été condamné à 4 mois avec sursis pour manque de respect à la religion. Mes autres films ont été condamnés pour obscénité. Ma vie a été une suite de procès. Si j'avais l'idée de les recueillir en un livre, ce serait une œuvre qui couvrirait de ridicule la magistrature. C'est effroyable d'être persécuté de cette manière. Et puis, je le répète, j'ai été persécuté pour tous mes films. Et cela a continué jusqu'au comte de Canterbury. Ce film non seulement a été sous procès, mais il est resté séquestré après avoir été autorisé. On a été jusqu'à créer une loi spéciale qui permettait de garder mes films sous séquestre après l'acquittement.
Sa mort violente fera de Pasolini une icône comparable à Rimbaud et surtout un martyr. Mais si l'on a beaucoup évoqué sa fin tragique, dont les circonstances n'ont jamais vraiment été élucidées et sur lesquelles nous reviendrons, n'oublions pas que Pier Paolo Pasolini, c'est avant tout une œuvre qui a marqué tous les domaines dans lesquels il s'est exprimé. Le roman, lui qui fut taxé de mauvais garçon de la littérature italienne, la poésie, celle d'un poète à la fois près des gens et qui intervient dans la vie publique, et bien sûr le cinéma qui lui a offert une gloire planétaire.
Andiamo a quel casale di quel contadino, siamo stati ieri a mangiare sa ricotta buona, eh?
Compisci 5 anni, voglio dirti la verità su di te.
Ti ringrazio. Addio.
Silenzio! Ci gira!
Silenzio! Silenzio! Motore.
Pier Paolo Pasolini.
Pier Paolo Pasolini naît à Bologne le 5 mars 1922. Fils de Carlo Alberto Pasolini, militaire dans l'infanterie, issu d'une grande famille dont il a dilapidé la fortune, et de Susanna Colussi, institutrice d'origine modeste. Comme l'explique René de Secati, son éclairant biographe et traducteur de plusieurs de ses livres, si l'on a parfois vu son père de façon caricaturale comme une espèce de soldat abruti et brutal, c'est pourtant à lui qu'il dédia certains de ses premiers poèmes. Un père qui ne contraria pas la vocation littéraire de son fils, de surcroît. Quant à sa mère, elle conserva une place prépondérante, non seulement parce qu'il vécut toujours avec elle et qu'il lui donna plusieurs rôles dans ses films, non seulement parce qu'il lui consacra à elle aussi plusieurs poèmes célèbres, mais parce qu'elle orienta volontairement ses choix en lui donnant accès à la littérature, elle écrivait elle-même des poésies, et en l'amenant à l'enseignement puisqu'il travailla avec elle dans l'école qu'ils ouvrirent pendant la guerre dans un petit village isolé en pleine campagne. De même qu'elle lui communiqua sa langue maternelle, le frioulan, bien qu'elle parlât italien et non le dialecte. Il faut savoir que, pour Pasolini, connaître les dialectes et écrire dans ceux-ci, qu'il s'agisse du frioulan pour certaines de ses poésies ou du parler des bidonvilles de Rome pour son premier roman, C'était une façon d'être proche du petit peuple, mais aussi de résister à l'État italien et sa langue officielle. Ce qui n'empêchera pas, à 17 ans, de s'inscrire à la faculté des lettres de l'université de Bologne, se prenant de passion pour la philologie romane et surtout l'esthétique des arts figuratifs. Bologne, une ville où foisonne la pensée et qui a toujours été aux avant-gardes des luttes politiques et sociales. Bologne qui s'avéra dès lors également formatrice pour Pier Paolo Pasolini. Pendant la Seconde Guerre, Susanna Pier Paolo et son jeune frère Guido Pasolini se réfugieront dans le Frioul où Susanna et Pier Paolo donneront gratuitement des cours à de jeunes lycéens qui ne peuvent pas se rendre à l'école. C'est à cette époque que Pier Paolo connaîtra son premier véritable amour, celui qu'il éprouve alors pour l'un des étudiants les plus âgés de cette classe improvisée. Dans le même temps, une jeune violoniste slovène dont la famille s'est réfugiée chez les Pasolini lui dévoile son amour pour lui. Un moment, on le comprend, déchirant, compliqué psychologiquement pour Pasolini, moment que vient percuter un drame. En 1945, son jeune frère Guido, entre-temps entré dans la résistance et membre d'une formation d'inspiration catholique, est tué, comme ses compagnons, par d'autres résistants, mais d'obédience communiste, un meurtre qui plongera la mère et le fils aîné dans un profond désespoir. Peu après, Pier Paolo publie ses premiers poèmes à compte d'auteur, puis, au début des années 50, il s'installe, avec sa mère toujours, dans la banlieue de Rome. Une période durant laquelle il commence à placer des articles dans diverses revues et parvient à décrocher enfin un travail régulier comme professeur dans une école privée. Et ce, tout en préparant son premier roman, imbibé de ce qu'il voit et ressent lors de ses balades dans les faubourgs pauvres de Rome, au contact de cette jeunesse miséreuse, errante, déconnectée, violente, où sévit la prostitution, notamment masculine, mais une jeunesse libre. Ragazzi, livre dans lequel il fait entrer l'argot des bidonvilles romains auxquels il s'est initié, sera publié en 1955. Un bouquin qui sera attaqué pour obscénité, mais connaîtra le succès auprès du public. L'année suivante, Pasolini publie un recueil de poèmes en prose titré « Les cendres de Gramsci », dont la première édition est épuisée en 15 jours et remporte un prix important, ex aequo avec Italo Calvino. Au cours de cette période, Pasolini s'est aussi lancé dans le cinéma comme scénariste avant de signer les dialogues d'un film de Fellini, Les Nuits de Cabiria.
A polizia! A polizia!
Madonna, Madonna mia! Fammi cambiare vita! Fammi la grazia pure a me!
Ma perché non te lo trovi pure te, un ragazzetto serio, sul tipo mio, rispettato?
Non c'ho bisogno.
Te dico che c'hai bisogno.
E io ti dico che non c'ho bisogno.
Au début des années 50, note l'un de ses biographes, il était naturel qu'un jeune écrivain talentueux s'intègre aux équipes de scénaristes de Cinecittà. Le cinéma italien était triomphant, non pas seulement sur le plan intellectuel et artistique, mais aussi sur le plan commercial. Rome ne se battait pas contre Hollywood. Hollywood venait chercher à Rome une alliée et puisait à cette source d'idées, de novation et de financement. Pasolini a bénéficié de cette situation exceptionnelle du cinéma italien qui permettait à un tempérament aussi singulier que le sien de s'exprimer avec une liberté sinon totale, du moins assez considérable. Une liberté qu'il paiera cher par d'innombrables procès déclenchés par des procureurs de province, souvent alertés par de simples spectateurs que choquait une image, une réplique, une scène, une allusion. Dixit. En 1961, après l'apparition de son deuxième roman, Une vie violente, Pasolini se lance cette fois dans la réalisation avec Acatone, un long métrage inspiré, comme ses deux premiers livres, par sa connaissance de ce que l'on appelait le sous-prolétariat romain. Un film qui le rend célèbre, l'installe un temps comme père de la nouvelle vague italienne et marque surtout le début d'une tumultueuse carrière de cinéaste. Par le cinéma, Lige, il veut un contact moins filtré socialement avec son public, qui aura une compréhension plus immédiate des images d'un film que des pages d'un livre. Hackathon, c'est un petit proxénète de la banlieue romaine qui perd son gagne-pain quand sa protégée se retrouve en prison après avoir été emmenée de force, battue et violée par des malfrats. Il fait alors la connaissance de Stella, une jeune fille pure et naïve qu'il cherche dans un premier temps à prostituer avant d'être touché par son innocence. Ce film, Fellini commence à le financer, à le produire, mais va bien vite se retirer de l'affaire une fois vus les premiers rushs, considérant que ce cinéma est à mille lieues du sien. Réduit à l'os mais traversé de lyrisme, Hackathon marquera par le décalage qu'il opère entre la musique et les images, superposant la passion selon saint Matthieu de Bach aux déambulations du jeune proxénète dans ses quartiers misérables. Et ce, dans le but de sacraliser ses héros et leur univers.
Come siete Carucci, a riscossa dei burini.
A te la piscarzanno, avanzo de galera, giusto la faccia tua, ci va presentate qua, vattene!
Après Hackathon et viendra Mamma Roma, qui suit une prostituée des faubourgs de Rome, Anna Magnani, laquelle rêve d'une vie bourgeoise, retrouve son jeune fils qui a grandi loin d'elle pour s'installer avec lui dans un petit appartement, dans l'espoir, forcément déçu, d'une existence nouvelle. Et cette fois, c'est Vivaldi qui transcende la poisseuse réalité.
Ma nipote, ne ha trovato madre?
Chi ne frega me dei madre?
Tanto una bella donna, tua madre.
Chiede ste mille lire che te dà mamma.
Non mi servono i soldi tua, i soldi mi sono guadagnata solo.
Ettore! Non so dove pensi che mi ha fatto, disgraziati!
Farò del tutto, ve lo prometto.
Dans son deuxième film, écrit à sa sortie un critique, Pasolini revisite le néoréalisme à sa manière, tragique et grotesque, en faisant se télescoper prose et poésie. Terrain vague, trône cassé, pantomime populaire d'un côté, soleil blanc divin, geste tragique et bouffée musicale de l'autre. C'est un monde chaotique et fataliste où les marginaux et le sous-prolétariat, quoi qu'ils fassent, sont condamnés à tout perdre en poursuivant un idéal petit bourgeois bien plus misérable qu'eux. En 1963, Pasolini réalise La Ricotta, l'un des sketchs d'un film auquel participeront aussi Roberto Rossellini et Jean-Luc Godard. Unanimement salué par la critique comme le meilleur épisode du film, La Ricotta verra pourtant son réalisateur Pasolini poursuivi pour dénigrement de la religion d'État. Dans ce court-métrage, si l'on peut dire, on voit un réalisateur, Orson Welles en personne, mettre en scène la passion du Christ sous la forme de tableaux vivants empruntés à la peinture italienne. À la fin du film, un figurant qui joue l'un des deux crucifiés aux côtés de Jésus achète un énorme fromage blanc qu'il engloutit rapidement avant de mourir d'indigestion sur la croix. Incapable dès lors d'énoncer sa réplique alors qu'on la lui souffle et que le réalisateur, Orson Welles, s'énerve.
Silenzio.
Silenzio! Si gira!
Silenzio! 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 Motore. 2150esima prima. Azione. Azione!
Su, stracci. Quando sarai nel regno dei cieli, forza, dai!
Azione!
È morto.
Povero Stracci. Crepare. Non aveva altro modo per ricordarci che anche lui era vivo.
Pour ce film, Pasolini sera donc condamné en mars 1963 à 4 mois de prison et à une forte amende avant d'être acquitté en appel. Et pourtant, l'année suivante, en 1964, Pasolini tournera l'Évangile selon saint Matthieu, fidèle au Nouveau Testament et qu'il dédiera à Jean 23, lui le marxiste. Un film qui décrochera à la Mostra de Venise le Lion d'argent et le Grand Prix de l'Office catholique international du cinéma. Mais les scandales et les poursuites judiciaires ne tarderont pas à rattraper Pier Paolo Pasolini. D'abord avec Théorème en 1968, dont le personnage principal, un éphèbe, produit une étrange attraction sur tous les membres d'une famille qui finissent par avoir des rapports sexuels avec lui. Le fils sensible, la mère sexuellement refoulée, la fille timide, mais aussi le père, un industriel tourmenté, et la bonne, pourtant très pieuse. Long-métrage au sujet duquel on pourra lire dans le journal Le Monde de septembre 1968, sur ordre du procureur de la République, la police de Rome a mis sous séquestre, vendredi à 15h, les bobines du film Théorema de Pier Paolo Pasolini. Cette œuvre, qui avait pourtant reçu à Venise le grand prix de l'Office catholique international du cinéma, est considérée par le parquet comme obscène car elle contient, dixit, différentes scènes de rapprochement charnel dont certaines sont particulièrement lascives et libidineuses, ainsi que des descriptions de rapports sexuels entre un invité et un membre de la famille qui l'accueille. Dans Médée, sorti en 1969, Pasolini n'hésitera pas à montrer son héroïne, la diva et cantatrice controversée Maria Callas, demi-nue, prise par Jason sur une peau de bête. Mais bien sûr, Maria Callas est avant tout Médée.
Médée est le premier film que vous tournez, mais est-ce le premier film que l'on vous a proposé de tourner ?
Non, on m'a proposé plusieurs films, mais c'est le premier que j'ai cru vraiment digne, enfin, de pas pouvoir dire non. Ça m'a excité.
Médée. Une Médée qui a le visage de Maria Callas. Une Médée qui doit peu à Euripide, qui ne doit rien à la musique de Boccherini, qui doit tout à l'auteur de Théorème et de La Porcherie, Pier Paolo Pasolini.
Que représente pour vous le choix de Maria Callas pour jouer le rôle de Médée ?
Parce que je crois que dans l'âme de Maria Callas, il y a des archétypes dont seulement Jung peut parler.
Seulement la psychanalyse peut expliquer votre choix.
Oui, je crois.
Take these vestments to Glaucia as gifts for her wedding. Tell her your mother wishes her no ill but only happiness.
Radio Caroline.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
En cette fin des années 60, alors que l'Italie, autant que d'autres pays un peu partout dans le monde, voit sa jeunesse étudiante se soulever et le féminisme s'armer d'une certaine manière, Pasolini, le scandaleux, l'homme libre, l'enragé, ne semble pas vraiment comprendre ces mouvements. Plutôt que la contestation, il va plutôt s'atteler à sa trilogie de la vie pour y célébrer la joie et la liberté des corps et des instincts. Son premier volet, le Décaméron, y accueillera toutes les formes de sexualité.
Et qu'est-ce qui donne un sens à votre vie, Pier Paolo ?
Ma vie même.
C'est-à-dire le travail.
Mais il faut la conclure. Et cambiato il tempo che devo.
Ce qui a changé, c'est le temps qui me reste à vivre. Quand j'étais jeune, j'avais une vie entière à ma disposition. Maintenant, il me reste 10, 15, 20 ans. En un mot, mon futur s'est tellement raccourci que c'est comme si je m'étais débarrassé d'un immense fardeau qui pesait sur mes épaules. Et cela m'a rendu plus léger, m'a donné cette gaieté, cette joie de vivre qui m'ont permis de faire un film joyeux comme le Décaméron.
Le Décaméron sera un immense succès en Italie, plus de 11 millions d'entrées quand je vous disais qu'il était populaire. À l'orée de cette trilogie de la vie, Pasolini, explique René de Secati, entre dans la phase de sa vie où ce personnage décrié, omniprésent sur tous les fronts politiques et culturels, dans les journaux à scandale, dans les festivals de cinéma, dans les universités, dans les revues intellectuelles, dans les débats politiques avec les étudiants, va atteindre un très large public. En réalité, dit-il encore, il n'a depuis le milieu des années 1950 jamais été un cinéaste d'art et d'essai, ni même un auteur confidentiel. Ses poèmes ont eu une répercussion considérable avant de paraître dans des recueils. Ils étaient même publiés, pour certains d'entre eux, dans des hebdomadaires de très grande diffusion. En 1975, pour son dernier film, qui devait être le premier volet de sa trilogie de la mort, Salo ou les 120 journées de Sodome, Pasolini transpose l'univers du marquis de Sade dans la République italienne et fantoche de Salo, au dernier temps du fascisme. La République de Salo était un peu comparable à Vichy en France. Je cite un journaliste. « L'identification avec Sade, exclue d'une révolution qu'il a tant espérée, poursuivie par la justice dans sa vie littéraire et sa vie publique, s'impose à Pasolini. Elle s'accomplit quand il décide d'évoquer la République fasciste de Salo et de revenir aux années essentielles de sa propre vie, la première moitié des années 40. Le sexe n'est plus utilisé cinématographiquement comme l'expression d'une innocence joyeuse et anarchique, mais comme l'instrument du pouvoir politique et de l'humiliation. Tout le sexe qu'il y a dans Salo, et il y en a une quantité énorme, dit encore ce journaliste, est la métaphore du rapport du pouvoir avec ceux qui lui sont soumis. En cela, il fausse et détourne Sade. Salo ou les 120 journées de Sodome sera interdit dans de nombreux pays, ce compris l'Italie, jugé comme l'un des plus scandaleux et des plus violents qui soit. Mais cette fois, Pasolini ne pourra pas participer à la polémique. Le 2 novembre 1975, moins de 2 mois avant sa sortie en salle à Rome, il sera assassiné sauvagement. 2 jours plus tôt, le 31 octobre 1975, Philippe Bouvard l'avait interviewé pour son émission 10 de Der au sujet de ce film pour ce qui sera son ultime apparition télévisée.
Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule « Les 120 jours de Sodome », une fois de plus celui par lequel le scandale arrive?
Je pense que scandaliser, c'est un droit.
Être scandalisé, c'est un plaisir.
Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.
Le sexe est-il politique?
Naturellement. Bien entendu.
Et la scatologie?
Anche la scatologie.
La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique.
Le cannibalisme?
Dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique.
Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques?
Voyez-vous, j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs
et
les dirigeants de la télévision italienne.
Ce sont quand même des coriaces.
Nous avons d'excellents estomacs.
Avez-vous toujours la même haine des bourgeois et de la bourgeoisie?
Il ne s'agit pas de haine, il s'agit de quelque chose de plus et de moins en même temps. Malheureusement, à ce point, je dois renoncer à cette espèce de haine, parce qu'en Italie, tous les gens sont devenus des bourgeois.
Et quand ce sont les bourgeois qui font le succès d'un de vos films, est-ce que ça vous attriste?
Il n'arrive jamais que ce soit des bourgeois à décréter le succès d'un film. Ce sont les élites bourgeoises, celles auxquelles j'appartiens, et la masse du public. C'est la masse du public.
Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui?
Comment l'entendez-vous?
Vous n'êtes plus un militant politique.
Je le suis plus que jamais. Je n'ai jamais été inscrit à un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais.
2 novembre 1975, 6 heures du matin. Le soleil commence à peine à poindre sur le sable noir de la plage d'Ostie, relate dans un compte-rendu fouillé un journaliste. Le quartier populaire d'Idroscalo, à l'extrême ouest du littoral, s'éveille brutalement. Les chiens aboient sans discontinuer depuis l'aube. La nouvelle se répand très vite chez les habitants du quartier. Un cadavre gît au milieu d'un terrain vague à 2 pas de l'embouchure du Tibre. Arrivé sur place, les curieux découvrent un corps réduit à l'état de grumeaux ensanglantés, lacéré d'entailles, le visage déformé. La police n'avait pas encore établi de périmètre de sécurité. Nous étions si proches que nous aurions pu le toucher, raconte un témoin. Nous cherchions à savoir s'il s'agissait d'un petit voyou du quartier tombé pour un énième règlement de compte. À 7h15, la police identifie le corps. Pasolini, 53 ans, a été littéralement massacré. Mâchoire fracturée, oreille arrachée, 7 côtes cassées, appareil génital tuméfié et le cœur éclaté. Il faut savoir que la veille au soir, vers 22h30, à bord de son Alfa Romeo gris métallisé, Pasolini s'était arrêté aux abords de la gare de Termini, où il avait remarqué, attablé dans un bar, Pino Pelosi, jeune voyou de 17 ans, qui offre parfois son corps contre quelques lires. il l'a embarqué, puis le jeune homme et enfin l'a emmené dans un restaurant où Pasolini a ses habitudes depuis une dizaine d'années. Ils quitteront ce restaurant vers minuit 20, Pasolini proposant une virée sur la côte à Ostie, située à 25 km de Rome. L'Alfa Romeo s'arrêtera au niveau d'un terrain vague bordé d'une zone marécageuse. Pasolini se rapprochera du jeune homme et là, les versions divergeront. Arrêté le lendemain à 3 km du lieu du crime, au volant de la voiture de Pasolini, puis interrogé par la police, Pino Pelosi, le jeune garçon, avouera être l'auteur du crime, expliquant avoir voulu repousser les avances du réalisateur qui serait alors entré dans une violente colère. Une bagarre s'en serait suivie et une fois Pasolini à terre, Pelosi, voulant s'enfuir à bord de l'Alfa Romeo, l'aurait tué en roulant sans le vouloir sur le corps. Après une enquête expéditive, Pelosi sera jugé et écopera de la peine maximale pour un mineur, 9 ans et 7 mois de prison. Sauf que l'avocat de la famille Pasolini n'admettra pas cette version des faits, argumentant. Lorsque Pelosi fut arrêté, il n'avait pas la moindre trace de sang sur ses vêtements. Pasolini, lui, était couvert de sa propre hémoglobine. Il y a forcément eu bagarre au corps à corps. Si Pelosi avait été seul, on aurait forcément retrouvé des taches sur lui. De plus, l'état de la victime montre qu'il y a eu un réel acharnement. Or, Pasolini était athlétique, nerveux, savait se battre et se battait souvent. Et Pelosi, lui, n'était qu'un jeune garçon plutôt frêle. Cette thèse ne tient pas debout. Les ennemis de Pasolini sont à l'époque nombreux, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, mais aussi au sommet de l'État et au cœur des institutions religieuses. La thèse de l'assassinat politique, que d'aucuns ont soutenue dès le début, gagnera en crédibilité quand, en 2005, sur la rail, Pelosi affirmera « Je suis innocent en réalité. Je peux aujourd'hui dire la vérité car tous les protagonistes de cette histoire sont morts. J'ai vécu dans la terreur pendant 30 ans. » Ils étaient trois. Ils ont roué de coups Pasolini en le traitant de sale pédé et de sale communiste. L'un d'entre eux me tenait à l'écart. Ils m'ont dit que si je ne me déclarais pas coupable, ils me tueraient ainsi que mes parents. Dans la foulée, Pelosi dévoilera le nom de deux des meurtriers, des jumeaux siciliens appartenant au parti fasciste Movimento Sociale Italiano. Tous deux décédés du sida en prison. Quatre ans plus tard, en 2009, Pelosi fera une nouvelle révélation. En réalité, ce soir-là, sa rencontre avec Pasolini n'était pas le fruit du hasard, mais avait été planifiée une semaine plus tôt. Une information qui ravivera l'idée de préméditation. La justice rouvrira l'enquête en 2010, exhumant de nouveaux éléments jusque-là ignorés, mais sans vraiment dissiper le flou dans lequel baigne le mobile du crime. En 2025, 50 ans après cet assassinat abject, d'aucuns, avocats notamment, cherchent encore à faire la lumière, rappelant combien l'enquête initiale fut bâclée, pointant par exemple que les autorités ont toujours affirmé que Pelosi et Pasolini s'étaient rencontrés le soir même à la gare de Termini de Rome pour une relation tarifée, alors que les deux hommes se fréquentaient depuis plusieurs mois. D'autre part, le premier rapport du médecin légiste établissant dès la nuit du meurtre que le réalisateur n'avait pas été tué par une seule personne, mais plusieurs, n'a jamais été versé au dossier. L'occasion également de réactiver quelques pistes comme les révélations explosives que, sous couvert de fiction, Pasolini s'apprêtait à faire dans un livre sur les relations troubles entre le crime organisé, des militants néofascistes et les services de renseignement américains. Ou encore sur le fondateur de la puissante loge maçonnique P2 et président de l'entreprise italienne d'hydrocarbures, commanditaire selon Pasolini de l'assassinat de son prédécesseur. En 2025 encore, alors que l'on célèbre les 50 ans de sa mort, est enfin publié en français le dernier recueil de poésie de Pasolini, Transhumané et organisé. La voix prophétique de Pasolini semble tendue vers l'idée même de sa disparition, lis-je. L'écrivain évoque ses errances sexuelles en périphérie des villes, des étreintes répétées qui ne parviennent jamais à l'apaiser. Mon corps est attiré par le plein où déjà ce qui règne est la mort. Et puis, toujours dans cette dernière poésie, surgit cette évocation lumineuse d'Ostie dans la banlieue côtière de Rome, précisément l'endroit où le 2 novembre 1975, Pasolini sera battu à mort, puis écrasé par une Alfa Romeo sur un sordide terrain vague. Et bien voilà, notre voyage houleux à travers le parcours de Pier Paolo Pasolini se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à l'étoiler et à le partager. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.